Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Elisabeth est la maman de deux petits garçons, des jumeaux. Alors que pour cette grossesse surprise, les échographies indiquent que tout va très bien et qu'elle ne désire pas spécialement faire les tests sur la trisomie 21, on lui annonce que l'un de ses bébés en est porteur. Immédiatement, le personnel médical propose aux futurs parents de faire un choix, poursuivre la grossesse gémellaire ou faire une interruption sélective de grossesse. Pour Elisabeth et son mari, il est hors de question de se séparer de l'un de leurs jumeaux, d'autant qu'ils connaissent très bien la trisomie 21, ayant un cas dans leur famille proche. C'est donc sous haute surveillance que les jumeaux Gabriel et Christian vont arriver au service de néonatologie avant de rentrer à la maison ensemble, après de longues semaines. Dans cet épisode, Elisabeth nous raconte la découverte de sa grossesse gémellaire. Elle nous explique pourquoi elle a accueilli la trisomie 21 de son bébé sans grande difficulté. Elle nous parle de l'évolution de ces deux garçons aussi extraordinaires l'un que l'autre et du petit troisième à venir. Bonne écoute! Bonjour Elisabeth, merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Merci à toi pour l'opportunité.
Alors tu es la maman de deux petits garçons qui sont jumeaux.
Ouais.
Quel âge ils ont ?
Ils ont 27 mois.
Est-ce que tu as toujours voulu être maman ? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu pensais depuis jeune ?
Oui, enfin j'ai toujours espéré que je pourrais fonder une famille un jour. Avec, si possible, plusieurs enfants.
Ouais. Ouais. Et à quel moment est arrivé le sujet de la maternité dans ton couple ?
Quand on s'est rencontrés, on se connaissait déjà, on s'est rencontrés en école d'ingénieur.
Ok.
Et quand on s'est rencontrés un peu plus intimement, on a su très vite qu'on voulait faire notre vie ensemble et fonder une famille.
Ouais.
Donc on s'est mariés assez rapidement et les enfants, c'était pas forcément prévu tout de suite, mais c'est arrivé au bout de un an.
D'accord.
Je suis tombée enceinte un peu avant l'anniversaire de mariage.
C'était une grossesse surprise ?
Oui.
Ouais. Comment tu l'as accueillie du coup cette nouvelle ?
Bien. Alors un peu stressée parce que je venais de commencer un travail.
D'accord.
Donc j'étais en période d'essai. Après j'avais confiance dans mon employeur et puis j'imaginais pas une seconde d'avoir des jumeaux. Donc je me disais bon, c'est un petit congé de maternité de 4 mois, ça va tomber l'été. Un peu stressée parce qu'en fait les mois d'avant j'avais eu des doutes 2-3 fois, donc j'avais fait plusieurs tests qui étaient négatifs à chaque fois, enfin bon. Et là, pour une fois, c'était positif et j'ai fait le test le matin, enfin j'ai refait un deuxième test pour être sûre le matin au boulot, et c'est vrai que je suis restée 5 minutes dans les toilettes en me disant bon, ça y est, apparemment je suis enceinte. Donc une bonne surprise.
Et alors, comment s'est passée cette première grossesse ?
Dès les débuts très compliqués, j'ai été très malade, vraiment très très malade. Enfin, plusieurs fois, mon mari me disait non mais là je t'emmène aux urgences. Surtout qu'on était en train de déménager, donc en fait on est parti 2 semaines aux États-Unis pour un voyage familial. Et en revenant, en fait, on se retrouvait à rester 3 semaines chez mes parents, le temps qu'on puisse récupérer les clés de l'appartement. Et du coup, je voulais rien dire parce que c'était le tout début de la grossesse. Et puis, je voulais attendre les fameux 3 mois. Enfin, bon. Puis, dans tous les cas, je voulais pas l'annoncer tout de suite. Du coup, j'essaie d'être la plus discrète possible, mais bon, quand on vomit 10, 12 fois par jour, c'est un peu compliqué. Quand on rentre du boulot à 18h30 et qu'on se couche directement alors que tout le monde est en train de dîner, ouais, c'est un peu compliqué. Donc, bon, je me suis fait griller un peu à droite à gauche. Mais non, les débuts assez compliqués. Et puis après, bah, en fait, j'avais pris rendez-vous pour ce que je pensais pouvoir être l'échographie du premier trimestre. Mmh. Parce que c'était, enfin, par rapport à l'écho de datation, c'était passé. Et puis, bon, j'avais pas trop de doute sur le fait que j'étais enceinte. Et en fait, on arrive à l'échographie du premier trimestre. Et bon, déjà, après 3 heures d'attente, et moi, j'étais en train de dormir dans la salle d'attente, j'étais épuisée. Enfin, j'étais vraiment fatiguée et malade tout le temps. Et je m'allonge sur la table, j'étais même plus trop contente de me dire bon bah je vais voir mon petit bébé parce que j'étais vraiment exténuée, il était 21h30, enfin c'était vraiment compliqué. Et là directement le gynéco qui commence l'échographie qui nous dit ah, des jumeaux.
Et il vous l'annonce comme ça.
Ouais. Ouais, il annonce comme ça. Donc peut-être qu'il se disait bah qu'on savait parce que peut-être qu'il s'imaginait qu'on avait fait une écho de datation, enfin je sais pas, bon, enfin bref. Et du là, coup, bah, on s'est regardé avec mon mari, je l'ai fusillé du regard. Parce qu'à l'époque, mal renseignée, lui, en fait, il y avait eu un cas de jumeaux du côté de son grand-père. Mmh. Et en fait, bon, les jumeaux, ça vient jamais de l'homme, en fait. Soit c'est des vrais jumeaux et c'est du hasard. Soit c'est des faux jumeaux et c'est la femme qui double ovule, donc bon. Mais à l'époque, je t'ai pas encore renseignée à ce point, et du coup, je l'ai fusillée du regard en mode, c'est de ta faute. Et non, panique totale, parce que je me suis dit, bah, c'est double travail, c'est double congé mat, c'est double tout, quoi. Et sur le moment, on pense pas forcément, c'est double bonheur et double bisous et autres. Donc ouais, non, vraiment, vraiment un gros gros coup de massue. Et du coup, finalement, le gynéco nous a dit bah là j'ai pas le temps, enfin je peux pas faire l'écho du premier trimestre pour les deux, donc revenez dans j'ai dû revenir dans 10 jours, enfin 10 jours après.
Et pendant ces 10 jours là, comment t'accuses petit à petit cette
Bah en fait les 48 premières heures là, c'était les 2 jours qui ont suivi l'annonce des jumeaux, c'était vraiment compliqué. Et enfin, au boulot, j'étais un peu. J'étais dans ma bulle, je réalisais pas trop. Et je l'ai dit au fur et à mesure à mes sœurs, avec qui je suis très proche. Et en fait, au bout de 48 heures, en fait, en rentrant du boulot, j'ai eu une sorte de petit déclic. Et je me suis dit, mais en fait, t'as pas le droit de réagir comme ça, quoi. T'as la chance. Il y en a qui arrivent pas à avoir d'enfants, et on en connaît dans notre entourage. Et là, là, il y a 2 enfants qui tombent dessus comme ça. T'as pas le droit de réagir comme ça, quoi. Et du coup, là, à partir de là, j'étais vraiment plus sereine. Et je me suis dit, bon, allez, c'est une bonne nouvelle. Faut se réjouir. Bon, ça m'empêchait pas de stresser quand même pour le boulot et autres. Mais et puis aussi de se dire, bah là, c'est la première grossesse. Et on se fait on a plein d'idéales, en fait, sur la grossesse. Mmh. Et du coup, depuis que j'avais appris que j'étais enceinte, bon bah voilà, c'est notre petit bébé. On s'imagine pas du tout qu'il peut y en avoir plusieurs, quoi. Et du coup, on s'imagine qu'on fera ci, qu'on fera ça. Et moi, c'était l'idée de me dire aussi, mais il y a des choses que je pourrais pas faire parce qu'il faudra toujours que je m'occupe des deux. Enfin, on s'imagine, voilà, les longs câlins pendant la sieste, machin. Et je me dis, bah il y en a deux. Enfin bon, enfin bref. Et du coup, bon, au bout de 2 jours, c'est passé. On l'a annoncé à nos proches, qui étaient contents. Bon, voilà. Donc bon, l'annonce est faite. On a eu l'écho du premier trimestre, finalement, qui s'est passé. On a eu la fameuse mesure de la clarté nucale, qui était bonne.
Pour les deux, du coup.
Ouais, pour les deux. Et en fait, nous, on avait, c'était un choix de notre part, on n'avait pas fait le test pour la trisomie. Bon, déjà parce que pour les jumeaux, il faut faire, enfin, c'est un peu plus compliqué, il faut faire directement le DPNI, je crois. Enfin, la prise de sang toute simple n'est pas fiable du tout quand c'est des jumeaux. Mais du coup, bon, c'était un choix de notre part parce qu'en fait, bah, quand on s'est dit qu'on aurait des enfants, on s'est dit qu'on était, enfin, tous les deux, c'était. On en avait parlé, c'était d'accord entre nous que bah on accueillerait nos enfants tels qu'ils arriveraient, quoi.
D'accord, ok.
Et surtout, le point important, en fait, c'est que la trisomie 21, on la connaissait déjà bien parce que le frère de mon mari a une trisomie 21, libre et homogène, donc comme Christian, qui a été découverte à la naissance, pour le coup. Et donc, là, mon beau-frère, il a 21 ans. Et donc, on connaissait bien la trisomie 21.
Et vous pensiez pas, du coup, que ça pouvait...
Non, non, franchement non, parce qu'au vu des statistiques et tout, on se disait ça va pas tomber deux fois au même endroit, quoi. Okay. Mais bon, dans tous les cas, en fait, pour nous, c'était pas un problème et c'était pas une inquiétude. Et en plus, effectivement, quand on prend tous les critères, bah, j'étais jeune, j'étais dans la bonne tranche d'âge, la clarté nucale était bonne, bah, j'avais 27 ans. Mm. Et tout va bien. Donc, comme c'était une grossesse gémellaire, bah, j'étais suivie tous les 15 jours. Mmh. Et puis, tous les 15 jours, à chaque fois, bah, c'est parfait, ils sont parfaits, vos bébés, ils vont très bien. Voilà. Tout va bien. J'ai eu une menace d'accouchement prématuré à 29 semaines, je crois. Bon, c'était la veille de mon anniversaire. On fait une échographie dans un cabinet de sage-femme. En plus, échographique, j'aurais pas dû avoir parce qu'en fait, dans mes rendez-vous, ça tombait mal. Et je me retrouvais en fait avec... Enfin, mon gynéco était en vacances. Puis les autres échographies étaient prévues plus tard. Enfin bref, je me retrouvais avec un mois sans surveillance. Alors que j'étais habituée tous les 15 jours à avoir une surveillance. Soit chez le gynéco, qui avait quand même un petit appareil pour faire une échographie. Donc en fait, tous les 15 jours, bah, on pouvait voir les bébés et suivre, écouter les cœurs et tout ça. Et là, ça m'embêtait quand même d'avoir un mois sans rien. Et surtout que bah, j'étais à 6 mois à ce moment-là, je crois. Et du coup, j'avais pris rendez-vous dans un cabinet de sage-femme échographiste. Voilà. Et à ce moment-là, en fait, elle m'a envoyée directement aux urgences parce qu'elle avait remarqué qu'avec quand elle faisait des pressions, le col se rétrécissait. D'accord. Et du coup, elle m'a envoyée aux urgences tout de suite. Et aux urgences... le monitoring montrait des contractions, mais que je ressentais absolument pas. Et du coup, ils ont pas voulu me laisser sortir tout de suite. En fait, ils m'ont fait les injections de corticoïdes pour la maturation des poumons.
Okay.
Et ils m'ont gardé donc 48 heures, parce que c'est deux injections à 24 heures d'intervalle. Donc, ils m'ont gardé un peu moins de 48 heures. Et je suis ressortie donc avec obligation de repos. Voilà, donc pas alitée complètement, mais bon, en gros, dans le canapé toute la journée, quoi. Et à 32 semaines, j'avais regroupé mes rendez-vous pour pas courir à droite à gauche tout le temps. Donc j'avais une échographie dans le même cabinet de sage-femme le matin et juste après, en fait, rendez-vous avec mon gynéco. Mmh. Et à l'échographie, alors ce qu'on avait déjà vu à 29 semaines, mais ce qui nous avait pas forcément alerté, on avait vu un problème d'alimentation pour Christian. Et du coup, donc le deuxième jumeau qui était toujours un peu plus petit, il était un petit peu plus petit. Donc au début, on pensait à un retard de croissance. Enfin non, pas au début, il pensait à un petit retard de croissance, mais voilà, ça arrive. Enfin, c'est fréquent chez les jumeaux. Ouais. C'était pas. Ouais. Et en fait, on avait vu un petit. Elle avait remarqué que le Doppler ombilical n'était pas forcément toujours très bon. Enfin bref. Ça faisait un problème d'alimentation pour Christian, au niveau du cordon ombilical. Mais ça ne nous avait pas alerté plus que ça, en fait. Et quand on y est retourné, donc 3 semaines après, pour faire l'échographie de suivi, et là, c'est une collègue qui nous a fait l'échographie, et elle a été un peu plus alarmiste. Mmh. Et du coup, bah, le gynéco qu'on voyait juste après, on lui en a parlé. Et en fait, lui, pour le coup, bah, ça l'a inquiété aussi un peu. Donc, il m'a envoyé, parce que j'étais suivie dans une clinique qui est de niveau 2. Et il m'a envoyé, en fait, dans un hôpital de niveau 3.
D'accord.
Et il m'a obtenu, donc, pour le mercredi, donc ça, c'était lundi, et il m'a obtenu pour le mercredi matin un rendez-vous en urgence avec la responsable du service des grossesses à haut risque à l'hôpital donc maternité de niveau 3. Et donc, le mercredi matin, on arrive au rendez-vous. Bonne surprise, je passe à peu près à l'heure, alors que j'étais calée entre deux rendez-vous. Je me dis, bon, cool. Bon, du coup, désolée pour les autres mamans qui avaient rendez-vous, parce que la salle était bondée en plus. Moi, je me suis dit, combien de temps je vais attendre? Et en fait, je suis passée assez vite. Et Donc la responsable du service était là et c'est un collègue qui faisait l'échographie, qui faisait l'échographie. Et donc il confirme le problème d'alimentation, mais en fait il nous dit oui, il y a bien un problème d'alimentation, mais c'est pas ça qui m'inquiète, c'est au niveau du cœur en fait. Et il a découvert une cardiopathie chez Christian. Il y avait une communication entre les deux ventricules, donc communication interventriculaire, qui après coup en fait avec les rapports d'opération et tout, c'était assez large. Donc mais à l'époque, bon, on réalise pas forcément trop. On sait juste que bon, il y a un problème, quoi. Ouais. Et donc, il nous dit, bah, il y a une communication entre les deux ventricules. C'est une cardiopathie. Et en fait, vraiment, d'habitude, j'ai une très très bonne mémoire. Et c'est vrai que c'est un peu flou. Ça s'est passé vraiment très très vite. Et du coup, tout de suite, bah, ils m'ont dit, bah, on va faire une amniosynthèse parce que en fait, ça peut être lié à une anomalie chromosomique. Du coup, amniosynthèse tout de suite. Et franchement, avec mon mari, on n'a pas le souvenir en fait qu'on ait eu le choix ou quoi. Enfin, vraiment, bah ouais, j'ai été transportée sur mon lit roulant dans la salle pour faire l'amniosynthèse. Et j'ai, dans mon souvenir, vraiment, ça s'est fait en urgence parce qu'en plus, ils ont dû repiquer. C'est vraiment pas très agréable. Ils ont dû repiquer parce qu'ils n'arrivaient pas à prélever assez de liquide et tout. Donc, et vraiment, ça s'est fait en urgence. Enfin, en plus, j'ai revu l'autorisation de prélèvement pour l'amniosynthèse. C'est mon mari qui a signé. Enfin, moi, ils étaient déjà en train de piquer, quoi. Enfin, ouais. Dans notre souvenir, ça s'est fait vraiment très, très vite et on n'a pas eu trop le choix. Bon, après réflexion, on s'est dit qu'on aurait sûrement accepté de faire l'amniosynthèse. Parce que, voilà, oui, effectivement, là, on découvre une cardiopathie. Et puis, il y a le problème d'alimentation. Enfin, donc, oui. Enfin, je pense qu'on aurait dit oui pour rechercher s'il y avait un problème qui mettait en danger la vie de notre bébé, quoi.
Donc là, la myosynthèse, elle se fait que sur l'un des deux bébés, c'est ça?
Oui, on a fait que sur Christian parce que Gabriel, donc tout allait très bien depuis le début. Okay. Et donc on fait la myosynthèse, la gynéco, la responsable du service l'envoie en urgence au labo, enfin, on l'entend dire aux infirmières, bah, c'est la top priorité, enfin, le labo, s'ils font qu'une seule chose aujourd'hui, c'est ça. Donc, et ils nous obtiennent un rendez-vous avec un cardiopédiatre pour le soir même, pour confirmer en fait, enfin pour que le cardiopédiatre, pour qu'il confirme la cardiopathie. Et ils nous disent donc dans tous les cas en fait, je savais que pour le problème d'alimentation, j'allais devoir être hospitalisée jusqu'à la naissance, parce que ça nécessitait une surveillance quotidienne en fait du cœur des bébés. Et surtout de fait de Christian. Donc le soir, on va chez le cardiologue qui confirme la cardiopathie. Et en fait, il s'est montré. Franchement, on était. J'ai pas du tout le souvenir qu'on ait été inquiétés. D'accord. Parce qu'il a été très très rassurant. Et surtout, en fait, mon beau-frère, du coup, qui a une trisomie 21, avait été aussi opéré d'une cardiopathie à 8 mois. De vie, alors que là en plus il nous disait que c'était plutôt vers 4-5 mois, donc au début. Et puis il a été vraiment très rassurant. Nous, tout ce qui nous importait, c'est. Enfin, on lui a demandé s'il allait pouvoir vivre à peu près correctement jusqu'à l'opération. Il nous a dit qu'il n'y aurait pas de soucis, enfin que ça n'allait pas.
Danger vital.
Oui, voilà. Voilà.
Et mais que... là, vous ne parliez pas du tout de la trisomie.
Non, non. Bah, on attendait le résultat, mais en fait on n'arrêtait pas de se dire, c'est. Enfin, ça serait. Juste incroyable, quoi, que ça tombe entre guillemets de nouveau sur notre famille. Enfin, on avait vraiment du mal à se dire. Et en même temps, petit à petit, moi je me suis convaincue, je me suis dit, mais il y a forcément quelque chose. Il n'y a pas une cardiopathie comme ça qui sort de nulle part, sachant qu'on sait que c'est 50% des bébés trisomiques qui ont une cardiopathie. Plus ou moins légère, hein, mais bon, voilà, on sait que bon, il y a des statistiques. Donc c'était 24 heures, 48 heures. C'était 2 jours d'attente pour les résultats. Donc bon, le mercredi soir, le cardiologue a appelé la gynéco qui a dit bon, laissez-les rentrer chez eux pour cette nuit et puis voilà, qu'ils viennent demain à 9h pour le début de l'hospitalisation. Donc le jeudi matin, je vais pour me faire hospitaliser. Le jeudi après-midi ou vendredi matin, je sais plus, on a une échographie avec la responsable du service des grossesses à haut risque. Et puis, ça, bon, hormis le problème d'alimentation de Christian, bah, les bébés continuent d'aller bien, hein, de grossir. Bon, Christian un petit peu plus lentement, mais voilà quoi. Enfin, en soi, ça allait. Et puis je la revois à son bureau dire « Non, mais je pense pas qu'il y ait une trisomie. On l'aurait vu. » Parce qu'elle a, elle a épluché avec les collègues. Ils ont épluché les anciennes échographies. Parce que du coup, j'en avais un paquet. Hein.
Ouais.
Et puis Christian, c'était un coquin. Parce qu'à chaque échographie, on... comme s'il faisait exprès. On a, par exemple, on a aucun beau cliché de son... Enfin, on n'a pas de profil parfait de Christian. Donc, ils n'arrivaient pas à voir le nez comme ci, comme ça. Donc, voilà, ça les perturbait un peu. Et puis, ouais, je crois que deux fois, elle est revenue dans ma chambre. On peut revoir les échographies. Enfin, comme s'ils voulaient se convaincre que, bah non, on n'aurait rien pu voir, quoi.
Toi, t'étais dans quel état à ce moment-là ?
Pas trop inquiète. Et franchement, pas à me ronger les ongles de stress. Enfin, bon. Je me souviens pas d'avoir vraiment été stressée. Et puis on a prévenu nos proches aussi, nos proches. Enfin, non, même les amis. Voilà, on avait envoyé un message. Bon, bah, on a découvert une cardiopathie. On a fait une amniosynthèse parce que c'est souvent lié à une anomalie chromosomique. Donc on attend les résultats. Et voilà, sinon les bébés vont bien. Et je suis hospitalisée jusqu'à la naissance. Et voilà quoi. Et le vendredi, fin de journée, ouais, ça devait être 16h30, un truc comme ça. La gynéco entre dans la chambre avec une collègue. Et en fait, c'est mon mari qui l'a vue en premier. Parce que moi, de mon lit, en fait, je voyais pas l'entrée de la chambre. Et mon mari, il l'a vue entrer avec une tête, en fait, d'enterrement.
Ah oui.
Donc tout de suite, il s'est dit, bon bah... Tout de suite, il s'est dit, il y a quelque chose. Et en fait, il s'est dit, pourvu que ce soit la trisomie 21. Parce que, du coup, l'amniosynthèse, en 48 heures, on pouvait avoir les résultats pour la trisomie 13, 18, 21... et le syndrome 22Q11, enfin, une autre trisomie. Et du coup, bon, évidemment, la trisomie 13 et 18, on connaissait un peu. Le quatrième syndrome, on avait regardé aussi un peu. Bon, évidemment, ce qu'on trouve sur Internet, c'est jamais très joyeux, hein. Sinon, ça se saurait. Et du coup, tout de suite, en fait, bah, quand il a vu la tête de la gynéco, il s'est dit pourvu que ce soit la 21, quoi. Qui bah, entre nous, on va pas se mentir, c'est la moins pire, quoi. Et elle arrive et bah du coup elle nous dit bon bah on a une mauvaise nouvelle, on a bien une trisomie 21. Et là alors moi comme je disais bah ouais j'ai eu un petit trou de c'est vraiment très 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 flou les quelques minutes qui ont suivi.
Ouais.
Moi évidemment bah j'ai pleuré un peu, enfin j'ai eu des larmes parce que en fait bah oui, forcément, bah voilà, on attend nos premiers enfants, on espère que tout se passe bien à merveille. C'est sûr que, bon, à ce moment-là, forcément, l'émotion prend un peu le dessus. Moi, j'ai pas vraiment de souvenirs, mais en fait, mon mari se souvient très bien que tout de suite, la gynéco a parlé d'interruption sélective de grossesse.
Donc là, c'est garder
Gabriel.
Bébé, garder, celui qui n'a pas la trisomie. Quoi.
Garder Gabriel. Et du coup, bah, faire une injection mortelle à Christian.
Ah oui.
Donc là, j'étais à 7 mois de grossesse. Hein. J'étais à 32 semaines. Et en fait, je dis ça parce que... Enfin, je précise ça parce que nous, en fait, dans le week-end qui a suivi, donc ça, c'était le vendredi soir, nous, c'est ce qui nous a le plus marqué, en fait. C'est un des trucs qui nous a le plus choqué, c'est que... On savait pas forcément. On n'était pas forcément au courant. Parce que bah forcément on n'était pas familier de ça que bah c'est possible d'interrompre la grossesse dans ce cas-là. Et en fait nous ce qui nous choque c'est qu'on bah on connaît c'est bien la trisomie 21 et on sait que c'est pas une si je peux dire enfin l'IMG est censé être réservé aux cas qui mettent en danger la vie de la maman ou du bébé. Et là, en fait, on savait que Christian n'était pas en danger en soi. Il n'était pas en danger. Sa cardiopathie, elle allait pouvoir être opérée. Enfin, il n'était pas en danger en soi. Et en fait, qu'on nous propose ça à 7 mois de grossesse, ça nous a choqué en fait, de réaliser que bah, c'était possible. Et donc, tout de suite, elle a proposé de faire l'interruption sélective de grossesse. Mon mari a tout de suite précisé que pour nous, c'était hors de question. Et dans la foulée, ça je m'en souviens, Elle disait, bon, bah, comme il y a un risque que ce soit des vrais jumeaux, parce que c'était deux garçons, deux poches de placenta, donc c'est, je crois, 30% des cas de vrais jumeaux. En fait, c'est quand l'œuf se divise tout de suite, ça donne deux poches de placenta comme les faux jumeaux. Mais du coup, c'est la même configuration, mais comme on avait le, comme il y a le même sexe, bah, il y a un pourcentage de chances que ce soit des vrais jumeaux. Du coup, elle nous a dit, bon, bah, il y a un risque que ce soit des vrais jumeaux, et donc Gabriel est aussi une trisomie 21. Donc, elle nous a laissé, elle nous a dit, bah, prenez le week-end pour réfléchir si vous voulez faire l'amniocentèse pour Gabriel aussi, pour vérifier. Mmh. Donc, bon, après, elle est repartie. Moi, donc, le soir même, franchement, c'est le choc de l'annonce est passé assez rapidement. Franchement, le soir même, c'est pas du tout que je niais ou que... Enfin, c'est juste que, bah, je me disais, bon, bah, OK, Christian a une trisomie 21. Gabriel, peut-être, même si, franchement, là, pour le coup, il y avait vraiment rien. Gabriel, ça se passait vraiment nickel. Lui, on voyait bien ses profils sous toutes les coutures. Enfin...
Ouais, t'étais confiante.
Non, ouais, pour le coup, on se faisait pas trop de soucis. En même temps, on se disait, ça serait dingue qu'il y en ait qu'un seul. Enfin, bon.
Oui.
Et en fait, est-ce que j'avais déjà accouché ou pas? Mais j'avais lu justement le cas. Je crois que j'avais pas accouché. J'avais lu justement le cas d'une. Et c'est la première que j'ai suivie. C'est une des premières que j'ai contactées sur Instagram. J'avais vu une maman en Angleterre qui avait accouché. De jumelles, dont une seule était trisomique.
D'accord.
Et du coup, mais il me semble que c'était avant d'accoucher que j'avais vu ce cas-là. Enfin bref. Du coup, moi, franchement, le soir même, mes deux petits garçons que j'attendais et qui allaient arriver bientôt, quoi. Mmh. Et je pensais pas à mon trisomique et mon pas trisomique, quoi. C'était mes deux petits garçons qui étaient là et qui continuaient de grandir et qu'on attendait. Ça a été un peu plus compliqué pour notre entourage forcément parce que nous on peut pas dire qu'on l'ait mal pris ou que par rapport à d'autres parents on a eu cette chance déjà, enfin c'était vraiment une grande chance pour nous de déjà connaître ce handicap et du coup moi forcément en tant que maman je me suis dit c'est vrai que la première pensée qui m'est venue c'est le monde et la société dans laquelle il va arriver vont pas être toujours bienveillant envers lui. Mmh. Et c'est ça, en tant que maman, qui m'a fait peur et qui m'a fait de la peine pour mon enfant. C'est pas tellement qu'est-ce qu'il va devenir, parce que on savait et on avait des exemples de témoignages de jeunes adultes qui font des choses très bien de leur vie avec une trisomie 21. Donc c'est pas tellement ça qui m'inquiétait, c'est de me dire le monde va pas être toujours très tendre avec lui. Et forcément, en tant que maman, ça fait de la peine, parce que personne n'a envie de voir son enfant souffrir à cause des autres, de méchanceté ou autre. Et donc moi, c'est surtout ça qui me faisait la peine. Mais effectivement, on a échappé en fait à cette peur de se dire « Mais qu'est-ce qui nous attend ? Et qu'est-ce qui va arriver à notre enfant ?» Que ce soit pour la chirurgie ou autre, on savait à peu près. C'est un des gros avantages de savoir avant la naissance, c'est que on peut se préparer.
Oui.
Et finalement, je suis très contente de l'avoir su avant la naissance parce qu'en fait, on a pu. Vraiment, la trisomie, en fait, elle a été mise un peu de côté. On s'est dit, c'est un peu comme une donnée de départ du jeu, quoi. On part avec cette donnée-là. Voilà, Christian a une trisomie 21, il faudra faire avec. Et.
Comment vous êtes préparée, du coup ?
Pas tellement, en fait. On s'est pas tellement préparé. C'est que c'était nos deux garçons qu'on attendait.
Oui, vous l'avez accepté, en fait. Ouais.
Et après, l'avantage, j'ai envie de dire, c'est qu'on est un peu préparé à tout. C'est qu'on sait que la trisomie 21 peut amener avec elle, typiquement la cardiopathie. Mmh. Mais aussi, peut-être, d'autres choses qu'on découvrirait à la naissance. On sait que... on savait que Christian serait plus à risque pour telle ou telle chose.
Comment s'est passée la rencontre ?
On l'annonce à nos proches, à notre entourage. Bon, heureusement, mon mari a rassuré les uns les autres. Bon, moi, j'étais hospitalisée. Finalement, on décide de pas faire l'amniocentèse pour Gabriel parce que la gynéco a quand même été sympa de nous rappeler qu'il y avait quand même un risque que ça mette en danger la suite de la grossesse. Et puis j'étais à 32 semaines passées, donc bon, autant essayer de profiter d'aller juste le plus loin possible, même si, avec le problème d'alimentation de Christian, on savait qu'on dépasserait pas les 34 semaines, a priori. Donc les médecins étaient un peu partagés, parce qu'ils étaient, bah, ils hésitaient entre continuer la grossesse, mais potentiellement mettre en danger Christian, qui était pas forcément à l'aise in utero, ou déclencher la naissance en prenant un risque bah, de mettre mal à l'aise Gabriel, qui pour le coup n'était pas du tout prêt à sortir. Quoi. Ouais. Donc on a continué comme ça, j'ai été hospitalisée, j'avais des échographies régulièrement, les monitorings tous les jours, et la situation de Christian commençait un peu à s'améliorer. Donc à un moment donné, il me disait « Bon, allez, on a décidé de vous laisser poursuivre jusqu'à 34 semaines. » Et en fait, la veille des 34 semaines, on fait une nouvelle échographie et là, on voit que la situation en fait est revenue à ce que j'étais, enfin à comment Christian était 2 semaines avant. Du coup, bah, quand la gynéco est passée dans la chambre un peu après, elle m'a dit bon bah c'est césarienne demain matin quoi. Donc là, on se dit bon, ok, on n'a pas eu le temps de visiter la néonate, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, mais bon. Je me souviens pas d'avoir été forcément très déçue que ce soit césarienne, parce que franchement, bah, je m'y attendais. On savait qu'il n'y avait pas forcément... Avec le problème d'alimentation de Christian, la cardiopathie et tout ça, on n'allait pas du tout risquer un déclenchement à voix basse. Donc c'était clair que c'était césarienne. Après, il se trouve que moi, dans cet hôpital-là, le papa n'avait pas le droit d'être là. J'ai attendu extrêmement longtemps, donc à jeun, avec tous les monitoring, les fils, j'étais complètement KO parce que j'avais été réveillée à je sais pas quelle heure du matin pour faire la dernière prise de sang, le truc. Ouais. Fallait me descendre à telle heure dans la salle. Enfin bon, j'ai attendu, je crois, 5 heures ou 6 heures. Parce qu'il y avait des urgences, des mamans qui arrivaient aux urgences, quoi, et qu'il fallait faire passer avant. Et donc finalement, bah, j'ai été la dernière césarienne de la journée. Et. Donc je passe, le papa peut pas être là. Bon, la césarienne en elle-même, j'ai un très mauvais souvenir parce que voilà, ça c'est pas forcément bien passé. Il y avait du personnel autour, mais pas forcément hyper rassurant.
Ah oui.
Surtout que je les entendais. Donc c'était Gabriel qui était censé être sorti en premier, et puis je commençais à les entendre dire qu'ils arrivent pas à sortir Gabriel. Donc là, bon, ok. Et avant aussi, là, du coup, juste avant de rentrer, la sage-femme me dit bon bah donc c'est moi et ma collègue qui allons sortir les bébés, on va vous les présenter s'il n'y a pas de problème. Alors, j'ai dit bon, c'est gentil, mais ça veut dire quoi s'il n'y a pas de problème? Enfin, c'est mes premiers enfants, c'est mes premières césariennes, ça veut dire quoi? Elle dit bah s'il pleure tout de suite et qu'il n'y a pas besoin de l'emmener tout de suite en soins quoi. Et donc bon, sur la table là, j'entends qu'ils n'arrivent pas à sortir Gabriel. Et puis je comprends qu'il est sorti et on n'entend pas pleurer. Je me dis merde. Là, je commence à pleurer de stress. Ouais. Et puis aussi de se dire en tant que maman, bah, c'est moi qui suis censée accoucher mes enfants. Et là, c'est des médecins qui le font pour moi. Et en plus, ils n'arrivent pas à le faire. Enfin, donc bon, c'était vraiment le stress. Et en fait, je comprends qu'ils emmènent tout de suite Gabriel en salle de soins. Et en fait, bah, il a été surpris par la naissance en fait, et il a eu des problèmes de respiration. Mmh. Donc il a dû être emmené tout de suite. Et en fait, je comprends, j'entends que Christian s'est présenté tout de suite. En fait, ils l'ont récupéré 1 minute après, même pas. Et là, donc, elle me le présente, donc elle me le met à côté. Moi, je pouvais rien faire. En plus, j'étais tétanisée. Je pleurais pour ce coup-ci de soulagement, ouais. Parce que j'ai entendu Christian pleurer tout de suite. Donc, je me suis dit, bon, au moins, il pleure. Je vais pouvoir lui faire un petit bisou. Donc, effectivement, elle me l'a approché près de la tête. J'ai pas pu bien le voir parce que j'arrivais pas trop à tourner la tête en plus. Donc, enfin, je lui ai fait un petit bisou. Et il est parti tout de suite en salle de soins. Donc après, un temps infini pour recoudre et m'emmener en salle de réveil. J'ai mal supporté l'anesthésie, donc je vomissais et tout. Enfin bon, c'était vraiment pas un très bon souvenir. Mmh. Et puis mon mari m'a rejoint en salle de réveil.
Donc lui, il n'avait pas pu les voir
Si, lui, il les avait vus en salle de soins. Mmh. Il avait fait des petits films, des petites photos. Donc, il m'a montré tout de suite le film. Donc, Christian, hyper serein, qui regardait partout, tout mignon. Et puis, Gabriel, le pauvre bébé, qui était en train de pleurer avec les appareils de respiration et tout. Enfin, bon. Et donc, voilà. Et on prévient la proche famille que les enfants sont nés, que ça va. Et donc, moi, j'ai pu remonter en chambre. Et en fait, bah ouais, j'avais vraiment beaucoup de mal à me remettre de l'anesthésie. Et j'arrêtais pas de vomir de la bile tout le temps. J'arrivais pas à rester debout. J'arrivais même pas trop à me mettre dans une chaise et tout. Et je crois que c'est vers 23h que j'ai réussi à me mettre dans un fauteuil roulant. Et du coup, mon mari m'a emmenée en néonat. Et j'ai pu voir les petits, mais 2 minutes chacun. Parce qu'en fait, je me remettais à vomir. Et au bout d'un moment, j'étais vraiment pas bien. Donc je me suis dit, bon, faut que je redescende. Donc le soir, j'ai quand même pu voir les petits qui étaient dans 2 services différents. Heureusement, c'est au même étage et tout. Mais du coup, voilà, on a vu les petits un peu. Et le lendemain matin, ça allait déjà un peu mieux. Et donc on est allé... J'étais un peu plus sereine, j'ai préparé les petites affaires qui étaient prêtes pour eux, quoi, donc pour les monter en néonat. Et on a pu faire le premier câlin à 4. Donc les infirmières, je crois, c'est Christian qu'elles ont amené, bah ouais, parce que Gabriel il avait tous ses appareils de respiration, donc ça se faisait près du petit lit de Gabriel. Donc les infirmières, dans cet hôpital, elles étaient vraiment, vraiment adorables, je suis restée en contact avec certaines. Vraiment très sympa, bienveillante. Et donc, elles ont amené Christian avec tout le matos. Et on a pu faire les petits câlins, les petites photos. Voilà. Et puis moi, à partir de ce moment-là, je passais tout mon temps en néonat. J'étais plus vraiment dans ma chambre. Et en maternité, ils étaient quand même sympas de me laisser mon plateau. Enfin, ils savaient que j'étais en néonat toute la journée, quoi. Donc, ça me tenait vraiment à cœur de les allaiter, donc dès le lendemain, je me suis mise à tirer mon lait. Et donc, toutes les 3 heures, je tirais mon lait pour leur laisser en néonat, parce qu'ils étaient nourris par sonde.
D'accord.
Et voilà. Et en fait, Christian, au bout de... Christian, en fait, il n'évacuait pas son méconium. Et donc assez rapidement, ils ont commencé à parler d'un syndrome occlusif. Donc il a passé des radios et des examens qui ont été envoyés à 3 hôpitaux pédiatriques de Paris. Et donc tout le dimanche, on attendait. Ils avaient 5 jours. Tout le dimanche, on attendait de savoir s'il y a un hôpital qui pourrait l'accepter, quoi. Notamment Necker et Robert Debré. Donc on attendait de savoir. Et puis, assez rapidement, on a su que Necker, ils n'avaient pas de place, ils ne voulaient pas de Christian. Et c'est Robert Debré, en fait, qui a dit OK pour le recevoir. Et en fait, ça s'est fait assez brutalement pour la jeune maman que j'étais. C'est qu'on était tous en câlin. Moi avec Christian et le papa avec Gabriel, et puis la pédiatre du service arrive et puis il dit bon c'est bon, il y a Robert Debré qui a répondu, le SAMU arrive dans 15 minutes.
Ok, oui, faut se tenir prêt.
Ok, donc dans 15 minutes mon deuxième enfant part dans un hôpital à des kilomètres de là. Bon, ça va, c'était pas non plus c'est pas à l'autre bout du monde, hein, mais bon, depuis chez nous il y avait quand même une bonne heure, surtout qu'il y avait des travaux à l'époque et tout, donc c'était vraiment la galère d'aller là-bas. De se dire dans un quart d'heure mon petit garçon, enfin je suis séparée de mon petit garçon, donc ouais, un peu dur. C'est le papa qui est parti avec Christian, et moi je suis restée avec Gabriel qui a fait d'ailleurs sa première tétée cette nuit-là et qui a bien tétée. Et moi le lendemain, en fait, je sortais, ça faisait 6 jours, et puis au niveau de la cicatrice et tout ça allait, donc ils m'ont dit vous sortez de l'hôpital. Et donc là, de se dire, j'ai l'un qui est là-bas, j'ai l'autre qui reste ici, enfin bon.
Parce que Gabriel devait rester encore.
Oui, Gabriel, avec les problèmes de respiration, ça allait de... Il s'est très bien débrouillé, hein, donc ça allait de mieux en mieux. Ils sont nés tous les deux à plus de 2 kilos, donc forcément, ils ont... Enfin, 2 kilos et 2 kilos 300. Donc forcément, ils ont perdu un petit peu après la naissance, mais on n'avait pas trop de doute, parce que pour sortir de néonat, donc il faut faire plus de 2 kilos, il faut... pas avoir de problème de respiration, il faut pas faire de bradycardie parce que c'est fréquent chez les prématurés. C'est le rythme cardiaque qui diminue tout d'un coup, et en fait faut gentiment, hein, mais faut secouer un peu le bébé pour lui rappeler de respirer.
Ouais.
Donc c'est assez impressionnant. On a des proches qui sont venus voir à la maternité, à l'hôpital, les premiers jours, et du coup quand ça arrive, nous tout de suite on a su, évidemment on connaissait les gestes à faire et tout, très vite on a su comment faire, mais bon c'est assez impressionnant de voir secouer un peu le berceau, dire hey, oh, réveille-toi. Ouais. Mais donc voilà ça, et puis savoir s'alimenter tout seul, Donc pour Christian, on savait hein, que bon, ça allait être un peu compliqué, parce qu'avec la cardiopathie, lui, pour le coup, il était pas du tout efficace. Et même au biberon, c'était vraiment un peu laborieux, donc il a gardé une sonde d'alimentation très longtemps. Et donc bon, le lundi, moi je sors. Le lundi, à Robert Debré, Christian passait toute une batterie de tests. Il était sous morphine et tout. Enfin, quand je suis arrivée le soir à Debré, il était complètement KO. Donc on a fait un gros câlin qui a fait du bien à tout le monde. Et en fait, ils ont commencé à nous parler d'une maladie de Hirschsprung, qui est une maladie donc, avec un syndrome occlusif. Et donc, c'est une maladie de l'intestin qui fait que bon, voilà, il y a des occlusions et les selles et les gaz ne s'évacuent pas. D'où, du coup, l'absence d'évacuation de méconium pour Christian. Mmh. Et là, pour le coup, je me souviens que c'est moi qui ai été, par rapport à mon mari, qui ai été un peu... Moi, la chute d'hormones était passée et tout, donc je commençais à reprendre un peu du poil de la bête, malgré les allers-retours entre les deux hôpitaux. Et je me souviens que le mercredi soir... On avait les résultats, du coup, des examens du lundi. Et c'est une chirurgienne, donc... Enfin, c'est une chirurgienne en viscérale qui est venue nous dire « Bon, bah, je peux vous parler ?» On va dans le bureau. Et je me souviens que là, pour le coup, mon mari avait l'air un peu plus dépité et c'était moi qui prenais plus les devants. Évidemment, on s'était renseigné sur la maladie de Hirschsprung et compagnie. Donc, elle nous a dit « Bon, bah, votre fils a bien ça. » Ça entraîne tel et tel problème, donc pas d'évacuation, ou alors très très peu en spontané. Et en fait, c'est une maladie qui dépend aussi de la longueur de l'intestin qui est touchée. Ça peut être une petite longueur, ou alors parfois ça peut aller juste tout l'intestin et le côlon. Enfin bon, c'est, ouais, c'est pas très drôle. Eux, au vu des radios, de l'évacuation très rare, mais ça arrivait de temps en temps. Christian avait des selles tout seul, donc ils avaient bon espoir que ce soit une forme courte de la maladie. Tout de suite, ils nous ont prévenu qu'il allait pouvoir être opéré dans les prochaines semaines. Et en fait, bon, l'opération consiste à retirer la partie malade, en fait, et puis raccorder la partie saine avec la partie du côlon. Et là, franchement, ouais, mon mari est un peu plus dépité que moi. Moi, je me souviens d'avoir pris... Ça. Évidemment, on prend pas ça bien, mais en fait, comme je disais, c'est... ça fait partie du truc, quoi. On se disait, on savait qu'il pouvait y avoir des complications. Mmh. Et ça en est une, voilà. C'est la première, si on peut dire, qu'on découvre après la naissance. C'est comme ça. Et on s'est dit, c'est comme ça qu'on est là, on va continuer d'être là pour notre petit garçon, comme si Gabriel avait... comme si on découvrait tel problème à Gabriel, on serait là pour lui, quoi. Assez rapidement, on a appris à faire les gestes qu'il fallait faire pour soigner Christian et compagnie. On a obtenu en fin de semaine d'avoir le transfert de Gabriel... c'était vraiment pas facile parce que ça tombait au moment du 1er mai et tout, donc c'était des médecins de garde. Enfin bon, on est tombé sur des personnes qui n'étaient pas forcément de très bonne volonté, donc ça a été un peu compliqué, mais on a réussi par obtenir le transfert pour rapprochement de jumeaux.
D'accord.
Donc au moins ils étaient tous les deux dans le même hôpital, qui n'était pas l'hôpital le plus près de chez nous, mais c'était pas grave, au moins ils étaient ensemble. Et puis après, c'est l'épisode néonat qui a commencé, quoi. Ils ont déménagé plusieurs fois de service. Parce qu'en plus, Gabriel, quand il y est arrivé, ouais, comme je dis, ils n'étaient pas forcément de bonne volonté et ils l'ont foutu dans le service qui est censé être la dernière étape en néonat avant le retour à la maison, quoi. C'est quand l'enfant a plus forcément besoin de soins respiratoires ou autres. Et du coup, il est bon, voilà, c'est une mini maternité. Je crois qu'il y avait de la place pour 6 berceaux. Enfin bon, voilà, c'est... On attend que l'enfant soit vraiment prêt à retourner chez lui et puis c'est bon. Et je le revois arriver, le pauvre, il était du coup dans un lit énorme. Moi, j'étais habituée aux petites chauffeuses, ils étaient dans les petits lits de néonat. Enfin, il faisait quoi? Il faisait 45 cm. Enfin, bon. Et là, il était dans un lit de grand, il était minuscule dans son lit de grand. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et en plus, ouais, à Argenteuil, ça faisait très cocon, familial. Enfin, on se sentait vraiment en sécurité et bien, j'ai envie de dire. Enfin, au moins, du moins, le mieux qu'on puisse se sentir à l'hôpital dans cette situation-là. Mmh. Et là, j'arrivais et puis je demandais à l'infirmière, bah, c'est... Je demande à la, ouais, à la puère, c'est, bah, les horaires de soins, c'est quand, enfin, bon. Et puis elle me dit, bah, y a pas d'horaire. Enfin, en gros, c'est bah, quand l'enfant fait, a telle ou telle réaction, on fait les trucs, quoi. Et moi, je me disais, oh là là, c'est mon pauvre bébé qui a même pas 10 jours, qui est tout petit dans son grand lit. Et je me disais, oh là là, comment ça va se passer? Et en fait, le lendemain, on appelle sur notre chemin pour l'hôpital. Enfin, j'appelais très régulièrement pour prendre des nouvelles des garçons quand on n'était pas à l'hôpital. Et là, on était en chemin vers l'hôpital et j'appelle pour prendre des nouvelles de Christian d'abord. Et je réentends la pédiatre qui me dit « Non, non, mais Christian, ça va, c'est Gabriel qui nous inquiète. Vous nous aviez pas dit quand même qu'il faisait autant de bradycardie ?» J'avais envie de dire « Mais vous vous attendiez à quoi ? Il est né à 34 semaines, il a 10 jours, il est né avec des problèmes respiratoires en plus. Enfin, et vous le foutez là, dans un grand lit comme ça, limite, enfin, pas sans surveillance, mais bon, voilà quoi. » Et donc il l'avait retransféré en soins intensifs où là on retrouvait un peu plus déjà nos habitudes des premiers jours de néonat avec ouais un peu plus quand même enfin des horaires réguliers de soins
Et ça a duré combien de temps du coup?
Donc ils sont nés le mardi 24 avril et Gabriel est sorti le c'était un mardi aussi. Enfin il est sorti le 19 juin.
Ah oui.
Donc, 8 semaines, il est resté. Et en fait, Christian, un petit peu avant la sortie de Gabriel, une semaine avant la sortie de Gabriel, Christian, il a été transféré dans le service de chirurgie parce qu'on avait... On savait que la chirurgie intestinale allait arriver vraiment, vraiment dans pas longtemps. Et donc, il nous avait dit, bah, en soi, il a plus besoin d'être en service de néonat parce qu'en plus, ça allait... Ouais, à part le problème intestinal, ça allait vraiment mieux pour Christian. Il y avait encore des petites bradycardies, mais bon, qui devenaient de plus en plus rares. Le biberon, ça allait à peu près, mais il était encore par sonde, en fait, et il avait vraiment du mal à prendre du poids, par contre. Donc, lui, il était Christian, il était en service de chirurgie, bah, en attente de sa chirurgie intestinale. Et Gabriel, il a pu sortir donc le 19 juin. Et... Donc bah là, on commençait à faire un soir sur deux, en fait. Un soir sur deux, bah, y en a un qui restait, mon mari ou moi, restait avec Gabriel ici. Et l'autre restait avec Christian à l'hôpital. On a réussi, mais c'était pas simple. On a réussi à faire que Gabriel puisse rester avec moi en journée, en fait, dans la chambre avec Christian. Parce que bah, normalement, les enfants de moins de 15 ans sont pas admis, quoi. Et puis Gabriel avait plus lieu d'être à l'hôpital. Donc, bon, on a réussi tant bien que mal, mais vraiment, vraiment, ça... Enfin, j'ai eu des moments de... pas de désespoir, mais bon, de gros craquage. Ouais. Et puis sur la fin, on n'a qu'une envie, c'est que ça se termine, quoi. Et puis on a l'impression que ça va jamais terminer. Quand on fait un pas en avant, on en fait deux en arrière. Parce qu'il y a un nouveau problème respiratoire ou parce qu'il y a un nouveau truc. Parce que Christian, ça n'a pas non plus été tout bien... Il avait, à cause de sa cardiopathie et de la maladie intestinale, il avait fait des malaises, enfin des gros gros malaises, où son rythme cardiaque descendait vraiment très bas. Enfin bon, il y a eu des épisodes vraiment pas forcément tous très joyeux. Et donc voilà, je finissais par réussir à passer la journée avec les deux dans la chambre de Christian. Je sortais, on restait quand même pas enfermés avec Gabriel dans la chambre de Christian. Dès que Christian dormait ou quoi, je sortais un peu avec Gabriel. Bon, voilà. On a obtenu une permission le dernier week-end de juin pour emmener Christian à l'appart. Donc il a eu, ouais, c'était même pas 48 heures de permission. C'était aussi un test pour voir comment il se nourrissait sans la sonde. Et il se nourrissait bah, plutôt bien, il buvait ses quantités qu'il fallait au biberon. Donc le lundi, il était retourné à l'hôpital. Il était censé passer une dernière radio avant la chirurgie intestinale. Et en fait, il y a eu une... Enfin, on est persuadé que c'était ça. Il y a eu une grosse erreur de protocole. Et il s'est retrouvé en fait bah, à faire un malaise après la radio et pas bien du tout. Et donc on pensait sortir le lundi soir, donc sortir définitivement. Normalement il était censé pouvoir rentrer. Et en fait, bon, et le lundi soir, il était avec la perfusion, le machin, le truc. On repartait en fait. Et je me disais, oh, quand est-ce qu'on va sortir? Et ça a mis plusieurs jours. Et bon, le jeudi, on a pu sortir voilà, définitivement de Christian. Voilà, c'était sa sortie officielle de l'hôpital.
Donc là, retour à la maison tous les quatre, ouais, pour la première fois.
Ouais. Bah, enfin, du hormis, coup, hormis la permission. Mmh. Donc, ouais, retour officiel avec tous les deux à l'appart.
Et comment tu t'es sentie, toi, du coup, à ce moment-là? Bah, franchement, tes deux chéris, enfin.
Ouais, bah, c'est tout le temps, c'est des câlins, et puis c'est des bisous, et puis on a nos deux petits garçons qui sont avec nous, quoi. Et donc, ouais, non. Et puis, mine de rien, la néonate, je disais le soir, je sais plus qui, c'est pas un mauvais souvenir. Pour moi, c'est pas forcément un mauvais souvenir. Parce que j'ai eu la chance que ce soit nos premiers enfants, donc, entre guillemets, j'ai avec ça à faire d'être à l'hôpital avec eux. Parce qu'on en a croisé des mamans qui pouvaient pas rester avec leur nouveau-né qui était hospitalisé parce que ils devaient s'occuper des 2, 3, 4 autres enfants qui attendaient à la maison, quoi. Et je me disais, c'est vraiment une chance en fait de pouvoir passer ma journée avec eux et pouvoir dormir avec eux sur place. Et donc, et puis on les a récupérés forcément, ils avaient 2 mois. Donc déjà un peu plus grand, on avait passé 2 mois à l'hôpital à s'occuper d'eux, donc les gestes et tout ça on les connaissait, enfin c'était pas comme si on rentrait à la maison avec 2 nouveau-nés tout petits qu'on n'était pas à l'aise de faire ci ou ça, en fait c'était, ouais, ça s'est fait très naturellement et ouais voilà, on était, non c'était...
Est-ce qu'avec cet enchaînement d'événements t'as pu te dire tout de suite, où il a fallu justement ce moment où vous étiez tous les quatre pour te dire je suis maman.
Non, franchement, dès le début, les enfants sont là, et puis il y avait l'allaitement, et puis d'être là en fait pour s'occuper de ses enfants, c'est. Alors j'ai pas le souvenir que tout de suite il y ait eu forcément une connexion hyper fusionnelle en mode c'est mes enfants ou quoi, parce qu'en plus j'étais pas non plus H24 avec eux, enfin. Au début, je retournais dormir dans ma chambre quand j'étais hospitalisée et tout, et puis après il y avait des allers-retours à l'hôpital, donc bon. Mais oui, une fois qu'on était tous à la maison, c'était de se dire, c'est derrière nous. Enfin, la néonate et l'hospitalisation, de cette façon-là, c'est derrière nous. Donc on savait qu'il y avait les deux chirurgies qui arrivaient, mais voilà, c'était différent. Là, c'était de se dire, là, on est comme toutes les autres familles qui récupèrent leurs enfants après l'accouchement et qui rentrent à la maison, quoi, et qui sont une famille à la maison. Donc le dimanche soir, on ramenait Christian pour la chirurgie le lundi. Chirurgie qui s'est très très bien passée, parce qu'on a eu le chirurgien, le top du top. Donc ça s'est très très bien passé. Christian s'est super bien remis. Et donc j'ai pris la voiture donc, pour aller chercher mon mari et Christian. Et donc là, ça y est, c'était le 8 juillet. Ouais, 8 juillet, et puis on se disait, l'été peut commencer, Christian, il est opéré, il fait ses selles comme il faut. On avait déjà la date, je crois, pour la chirurgie cardiaque, qui était tout début septembre, donc on se disait, on part pour un été serein, on avait nos vacances de prévues et tout. Bon, les vacances se sont pas forcément passées comme espéré, j'ai envie de dire. Parce que Christian a... On nous avait dit que tant que la chirurgie cardiaque n'était pas passée au niveau intestinal, ça allait pas forcément être encore parfait, quoi. Et effectivement, il a eu un petit épisode d'occlusion fin août, mi-août. Donc pendant nos vacances dans le sud, on est allé à l'hôpital. Donc puis en rentrant de vacances de nouveau encore, on est reparti aux urgences parce que là, Christian avait l'air vraiment pas bien. Enfin. Effectivement, il était en train de faire une grosse occlusion. Et du coup, le lendemain, en plus des urgences, on avait le rendez-vous préopératoire pour la chirurgie cardiaque. Et le cardiologue a confirmé qu'il allait bien faire, que l'opération allait bien avoir lieu, parce qu'en fait, là, il y avait un objectif de poids pour l'opération. Christian devait faire 4 kilos. Et il était qu'à 3,7 kg ou 8 kg à la visite préopératoire. Donc bon. Et puis le cardiologue a dit en fait, non, mais c'est un cercle vicieux en fait. Tant qu'il n'est pas opéré, il ne va pas prendre du poids. Et tant qu'il ne prend pas de poids, c'est pas qu'on ne peut pas l'opérer. Mais voilà. Donc il a dit, on l'opère quand même s'il n'est pas 4 kg. Et effectivement, le matin de la chirurgie, il était à 3,8 kg, je crois. Mais bon, là encore, la chirurgie s'est hyper bien passée. On avait le chef de service, qu'on a rencontré le matin même, parce qu'on n'avait pas pu le rencontrer au rendez-vous préopératoire. Donc on l'a rencontré le matin même, il a été hyper rassurant. Enfin, j'ai une photo de moi avec Christian quelques minutes avant l'opération où on est grand sourire tous les deux. Enfin, on est vraiment pas du tout stressé. Moi, mon mari était un peu plus tendu. Moi, vraiment, j'ai souvenir d'être vraiment très sereine. Alors, bah, forcément, on attend l'appel du chirurgien hein, qui confirme que tout s'est bien passé. Mais vraiment, souvenir que bon, ça va bien se passer. C'est une opération qui est très courante. Et puis, le chirurgien avait vraiment été hyper rassurant, très bienveillant. Non, vraiment pas de soucis. Effectivement, il nous a appelé pour nous dire que tout s'était très bien passé. Qu'on allait pouvoir voir Christian en réanimation dans tant de temps. Et donc ouais, forcément, bah, quand on entre dans la chambre de réanimation, un peu impressionnant hein, de voir la crevette Christian dans son grand lit avec tous les tubes. Il était complètement KO parce que bon, avec l'anesthésie et tout ça, vraiment. Mais l'opération s'était bien passée. Les premiers examens, enfin au niveau du cœur, la surveillance du cœur et tout allait très bien le soir même. Quand on est parti, l'infirmière disait que sûrement dans la nuit, on allait pouvoir l'extuber et donc le remonter en chambre en cardiologie, donc le sortir de réanimation. Et donc, comme je disais, en fait, c'est vraiment plein de bonnes nouvelles parce que là, on nous avait dit, bah, c'est au moins. L'anesthésiste nous avait dit, ça peut être 5 jours en réanimation.
Ah oui.
Et là, en fait, le soir même, on nous dit, bah, demain matin, il peut être sorti, quoi. Mmh. Et du coup, en réalité, c'est très souvent comme ça. C'est 1 ou 2 jours max en réanimation. Mais bon, ils prennent toujours des... Forcément, ils prennent pas de risques. Ouais. Enfin, ils s'avancent pas. Hein. Mais voilà, le fait est que... C'est ce que je disais. En fait, on s'attend tellement tout le temps au pire avec la trisomie 21. C'est tellement un tableau... Bon, on s'attend en fait toujours au pire. Et du coup, bah, comme le pire en soi n'arrive jamais, c'est... constamment, en fait, des mini bonnes nouvelles, j'ai envie de dire.
Est-ce que vous discutez beaucoup avec les parents de ton mari?
Franchement...
Pour savoir par quoi eux, ils sont passés
Oui, non, bien sûr. Bah, bien sûr, ils nous faisaient part de leur expérience. Après, c'était pas...
Même là, dans l'éducation, aujourd'hui...
Si, oui, souvent, c'est de dire, pour Paul, on faisait comme ci, comme ça. Pour Paul, on faisait ça. Après, c'était il y a 20 ans. Donc depuis il y a certaines choses qui ont changé aussi qui ont évolué et Dieu merci en bien mais oui non on est mais après c'est pour nous dès le début ça a vraiment été bon Gabriel et Christian et du coup c'est au quotidien non c'est vraiment c'est Gabriel et Christian quoi c'est pas parce que Christian est trisomique on fait ci ou on parle plus de ci ou de ça. C'est non, on suit l'évolution des deux. Alors forcément, mais sans être de la comparaison, il y a du partage d'expérience, de dire effectivement Paul il a fait ci à tel âge ou ça s'était passé comme ci comme ça. Enfin oui non, il y a des
parce que j'imagine qu'ils ont pas le même rythme du coup les deux Gabriel et Christian, chacun a son rythme de croissance.
Ouais. Alors ce qui est bien, moi ce que je trouve génial avec les jumeaux, c'est qu'en fait j'ai eu de la chance apparemment, parce que c'est pas toujours le cas, ils ont toujours eu le même rythme de sommeil, de repas, c'est... Et puis assez vite, en fait, c'était bon, quand l'un mange, l'autre mange aussi, enfin... Du coup, ils ont toujours tout fait en même temps. Donc, en fait, dans la vie quotidienne, tout ce qui est de la vie quotidienne, la sieste, les repas, l'échange, enfin voilà... Tout ça, c'est... j'ai envie de dire, il n'y a pas de différence. Mmh. Parce que Christian, c'est un petit bébé comme un autre, pour le coup, qui a les mêmes besoins vitaux, quoi. Enfin, mmh. Ouais. Et après, au niveau de l'évolution, forcément, il y a un décalage. Là, Gabriel, il a marché à 16 mois. Christian, il a marché à... Allez, ça a été un petit peu plus long à se mettre en place, mais entre 25 et 26 mois... Christian il a toujours pas de mots, il babille beaucoup, mais c'est une vraie pipelette, mais il n'y a pas de mots distincts.
Comment ils échangent tous les deux? Est-ce que tu remarques
langage
à eux justement?
C'est drôle parce que déjà il y a une impression, et je pense que c'est pas qu'une impression, ils ont l'air vraiment de se comprendre. C'est vraiment drôle parce que même quand Christian du coup entre guillemets, parle sans dire de vrais mots. on a l'impression que Gabriel le comprend, parce que parfois on les entend dans la chambre ou quand ils sont en train de jouer tous les deux, et qu'on est en mode espionnage pour essayer de voir ce qu'ils se disent, parce que souvent c'est très drôle apparemment. Ils ont l'air de se comprendre, parce que souvent on entend Gabriel dire non, Christian, ou alors enfin de lui répondre quoi. Et on se dit bon, bah c'est bon, bah ils ont l'air de se comprendre, tant mieux pour eux. Mais Christian il comprend très très bien ce qu'on dit, donc Gabriel, bah que ce soit des vrais mots ou leur petit langage à eux, ils ont l'air de se comprendre et de. Bon, ils jouent super bien ensemble, enfin. Bah forcément, ils sont. Forcément, c'est deux frères, donc comme tous les frères, bah il y a des disputes sur les jouets, sauf que Gabriel a un petit peu de mal à prêter, donc il y a des baffes qui se perdent, ou voilà, des petites bagarres qui viennent très souvent de Gabriel quand même. Hein. Mais,
Il n'est pas particulièrement protecteur avec son frère
Non, pour l'instant, pas forcément. Mm. Mais c'est vrai qu'il se cherche beaucoup. Sans force. Là, en même temps, ils sont vraiment tout le temps ensemble. Mais il y a eu un week-end où ils étaient séparés pendant un jour et deux nuits et une journée. Bon, apparemment, ils ne se sont pas réclamés. Bon, Christian, on ne peut pas savoir, mais, mais il a eu le sourire tout le week-end, donc on suppose que ça s'est très bien passé pour lui. Et Gabriel, non, il réclamait surtout maman, mais. Oui, non, pour l'instant, là, ça... Bah, en fait, ils sont toujours ensemble et je pense que. Ouais, ils sont. C'est Gabriel et Christian, quoi. Ils sont. Gabriel sait que Christian ne doit jamais être très loin, quoi. Mm. Mais c'est mignon parce que parfois, je laisse Gabriel pour emmener Christian à ses rendez-vous ou là, pendant le confinement, quand je laissais Gabriel dans sa chambre et que je faisais le rendez-vous en visio avec Christian. Gabriel était là, bon, à tout à l'heure, Christian. Enfin,
ils ont chacun leur individualité.
Ouais. Non, et puis c'est. Non, ils sont vraiment trop mignons. Bon, ouais, comme je dis, forcément, il y a des bagarres, là, c'est un peu moins mignon. Hein. Mais non, ouais, quand ils jouent ensemble, c'est adorable. De les entendre et de les regarder jouer ensemble, c'est trop mignon.
Est-ce que tu as beaucoup de rendez-vous médicaux, du coup, pour Christian?
Ouais, alors, ouais. On va pas se mentir, ça fait pas mal. Déjà, toutes les semaines, il a un rendez-vous d'orthophoniste et un rendez-vous avec la psychomotricienne. Jusqu'à il y a pas longtemps, il avait aussi un rendez-vous par semaine avec le kiné. Mais là, avec l'acquisition de la marche, et puis on a fait un bilan kiné qui a montré que bah, il y avait plus besoin de prise en charge kiné. Donc bon, déjà, ça réduit de 3 à 2 rendez-vous par semaine. Et après, dans l'année, bah ouais, on a des rendez-vous. Donc, c'est vrai que la première année, c'était un peu plus soutenu parce que les rendez-vous étaient plus fréquents, que ce soit pour la surveillance des deux chirurgies ou les examens de la première année, quoi. Parce qu'il y a aussi, bon, il y a l'aspect trisomie, mais il y a aussi l'aspect prématurité. Et là, bah, Gabriel, il y passe aussi, quoi. On a eu un rendez-vous pour vérifier la vision, pour vérifier l'audition. Et là, bah, ça rejoint ce que je disais, bonne nouvelle. Enfin, on pourrait s'attendre. Bah, bon, il y a une trisomie 21, forcément, il y aura des lunettes ou un appareil auditif ou autre. Bon, bah, il se trouve que des deux, c'est Christian qui voit le mieux, quoi.
Ah oui.
Ouais, c'est Gabriel qui a un petit strabisme à surveiller. Et Christian, il a une vision parfaite. L'audition est très bien aussi pour Christian. Donc bon, voilà.
Oui, tu me disais que tu prenais pas pour acquis tout ce qu'on te disait sur la trisomie, justement.
Ouais, voilà. Enfin, ben, depuis le début de la grossesse, en fait, j'ai vraiment réalisé que bah, chaque grossesse et ensuite chaque enfant bah, sont vraiment différents. Quoi. Mm. Et du coup, moi-même, c'est vrai que moi-même, après, je me disais, mais en fait, donne pas trop de conseils aux autres, parce qu'en fait, chacun vit son truc. Enfin, si, forcément, on fait du partage d'expérience et du témoignage, de dire, moi, ça s'est passé comme ça. Mais en fait, de le vivre moi-même, j'ai vraiment réalisé que chaque histoire est différente, quoi. Alors, Christian, il a une hypothyroïdie aussi. Donc, il est suivi par une endocrinologue. Là, c'était assez soutenu, c'était 3 à 4 fois par an. Et en fait, là, elle me dit, bon, on peut commencer à espacer les rendez-vous. Donc, Donc bon, petit à petit, il y a des rendez-vous qui s'espacent, mais il y a des rendez-vous aussi qui restent, et ça, on le sait. Donc c'est, évidemment, c'est un petit agenda à tenir, hein, mais bon, heureusement, moi, je suis assez organisée, et surtout, j'adore faire ça. Donc, oui. Ça ben ouais, tu planifies tous les rendez-vous, t'appelles, tout marche bien comme prévu, bon, t'es... Et la satisfaction de tout voir s'arranger, en fait, et se dire, bon, bah voilà, ça va bien se passer, quoi. Et donc, bah ouais, forcément, c'est un petit investissement, hein, faut être disponible pour emmener au rendez-vous et tout ça. Et surtout, là, avec les jumeaux, bah, le petit souci, c'était de faire garder Gabriel. Parce que quand ils étaient tout petits, ouais, on pouvait l'emmener, il participait au rendez-vous avec Christian, par exemple, chez la psychomote, le kiné, l'orthophoniste. Mais là, en grandissant, en fait, et puis même pour Gabriel, c'est pas possible. Enfin, on peut pas lui demander de rester une demi-heure sagement dans son coin pendant qu'on travaille avec Christian et le professionnel de santé. Donc assez rapidement, en fait, on nous a demandé de faire garder Gabriel pour se consacrer à la séance de Christian. Donc ouais, là, c'est bon. J'ai la chance d'avoir la famille à côté, donc ça a pas été trop compliqué. Bon, c'est, bah, heureusement, ils sont très disponibles et toujours prêts à aider, donc ça s'est fait assez facilement. Mais voilà, là en septembre, ils rentrent à la crèche tous les deux. Donc ça va être un peu plus simple. Gabriel sera à la crèche pendant que j'emmènerai Christian au rendez-vous.
Ils seront tous les deux dans la même crèche ?
Oui. Okay. Ils ont été acceptés tous les deux dans la même crèche. Nous, on a eu une très très bonne impression et franchement, on n'a pas de doute que ça se passe très très bien. On a été très agréablement surpris de voir au rendez-vous de pré-admission. On n'a jamais mentionné le mot trisomie 21 ou handicap avec la directrice. C'était vraiment Gabriel et Christian. Enfin, c'était nos deux enfants qui vont être accueillis à la crèche. Donc forcément, ils demandent les spécificités des uns des autres, les repas, comment ça se passe. Donc forcément, pour Christian, ça se passe un peu plus comme ci, comme ça. Mais en fait... moi déjà ça nous a rassurés en tant que parents de se dire bon déjà ils vont être considérés tous les deux tous les deux voilà.
Ça t'a pas semblé compliqué?
Non, vraiment du tout. Et alors est-ce que dans notre ville ils disaient que déjà en crèche les dossiers qui sont très souvent en top de liste c'est les familles de multiples, enfin les enfants multiples sont prioritaires et en plus ils précisent que une attention particulière est portée aux familles dont l'enfant est porteur de handicap. Donc là c'est vrai qu'avec les jumeaux plus le handicap, bon, on avait le combo un peu gagnant, j'avais pas trop de doutes sur l'acceptation, mais manifestement on a eu de la chance parce que j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit dans votre ville là il y a plusieurs mamans qui se plaignent qu'elles n'ont pas eu de place et tout, donc bon, tant mieux, mais voilà, le fait est que bon, ils vont être 3 jours à la crèche, tous les deux dans la même crèche, et franchement, j'ai pas trop de doute que ça se passe, que ça va très bien se passer, quoi.
Et est-ce que vous anticipez l'éducation dans le futur, donc l'entrée à la maternelle ?
Ouais, donc là, on sait que dès septembre, là, il faut que on sait qu'on doit s'activer pour faire un repérage déjà des écoles. Et puis sonder un peu, sonder comment ça va se passer par rapport au handicap, en fait. Donc, on sait qu'on doit s'atteler à ça en septembre, que ça va pas forcément être simple, parce qu'on est aussi préparé à entendre des choses qui vont pas forcément être toujours très sympas. C'est pas tellement qu'on se renseigne, mais on tombe sur beaucoup de témoignages de parents qui sont passés déjà par là, et... Voilà, on lit que telle directrice a eu tel mot envers tel parent. Enfin bon, donc on se dit bon, on espère que pareil que pour la crèche où à première vue il y a beaucoup de bienveillance, on espère que les écoles pour la maternelle seront à peu près pareilles. Mais oui, non, on sait qu'on va devoir. C'est pas acquis que nos enfants vont être dans l'école qui est à 200 mètres, quoi. Parce que si on le sent pas, on cherchera une autre école où on saura que Christian va être bien accueilli, quoi. Donc, oui, non, là, en septembre, donc un an, a priori, c'est dans un an qu'ils rentreront en maternelle. Donc, on va s'activer pour faire le tour des écoles et puis savoir sonder un peu comment ça va se passer et puis préparer l'entrée en maternelle.
Vous voulez qu'ils soient ensemble, tous les deux ?
Oui, je pense. Bon, on lit de tout, hein, qu'il ne faut pas les mettre ensemble, qu'il faut les mettre ensemble. Alors, c'est vrai qu'il y a, la particularité jumeaux. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre les laisser ensemble. Mais c'est vrai qu'en plus, en fait, il y a le handicap qui vient se rajouter. Et du coup, c'est pas comme s'ils n'étaient pas jumeaux. Mais voilà, c'est pas non plus comme s'ils étaient deux jumeaux vraiment pareils. Il y a la particularité de Christian qui fait que bon, ouais, c'est un peu plus, un peu moins évident que ça, je pense. Mais non, je pense, pour avoir parlé avec des familles dans notre situation, donc avec des jumeaux dont un seul a une trisomie 21, ce qui ressort beaucoup, c'est quand même de les laisser ensemble.
Ouais.
Ouais. Et puis moi, je pense que je serais plus rassurée, ouais, de les laisser ensemble. Bon, on verra comment ça. Déjà, l'année de crèche va être un bon test. Enfin, très, très rapidement, je pense qu'avec la crèche, on va voir comment ça va se passer. Mais pour l'école, au moins la maternelle, oui, je pense.
T'as l'air hyper sereine sur toute l'acceptation du handicap, de la trisomie 21.
Je suis très consciente que c'est pas du tout le cas de tout le monde. Et franchement, comme je dis, en fait, je répète beaucoup que je pense que c'est... Ouais, je pense que c'est une grande chance, en fait, déjà d'avoir eu Paul dans notre vie, qui, moi, m'a permis de dédramatiser... Enfin, pas complètement, mais c'est pas inconnu, en fait. Et je pense que c'est ça, en fait, qui fait le plus de mal, c'est l'inconnu. Et c'est la peur de l'inconnu. Mais comme pour tout, que ce soit le handicap ou tout, le gros problème, c'est ça. Et effectivement, nous, on y a échappé, quoi. Et... Après, je sais pas, est-ce que c'est des convictions personnelles de se dire que dans tous les cas, en fait, on savait qu'on garderait notre enfant ou quoi. Enfin, par exemple, je me suis jamais demandé pourquoi nous. Je me suis jamais demandé si on n'avait pas gardé Christian. Enfin, c'est des questions que je ne me pose absolument pas. Parce que avec mon mari, on sait que on savait qu'on accueillerait notre enfant comme ça, et avec les particularités qui vont avec. Tous les deux, on est vraiment bien placés pour savoir que même sans handicap, la vie est loin d'être toujours rose. Et que les problèmes dans la vie, ça n'arrive pas qu'aux personnes handicapées. Je sais pas si on peut parler de philosophie de vie ou quoi, mais c'est de se dire en fait, ouais, avec mon mari, on est tous les deux assez optimistes et positifs, en fait, par rapport à ça. Et c'est surtout que je crois qu'on n'a pas envie de se dire toujours si tel truc arrivait. Enfin, on n'a pas envie de... qu'on nie le handicap ou quoi de notre enfant. C'est vraiment pas du tout ça. C'est que avant tout, en fait, Christian, c'est notre fils comme Gabriel. Donc forcément, il y a des particularités. Mais voilà... On le prend avant tout comme notre enfant. Et point. Enfin, comme Gabriel, on pourrait lui découvrir tel ou tel problème dans je sais pas combien de temps. Et on s'en occuperait comme on s'en occupe de Christian. C'est vrai que notre chance... je pèse un peu mes mots parce que je sais que c'est pas évident en fait pour tout le monde. Enfin, tout le monde ne le vit pas du tout comme ça. Et c'est pas... ça... Venant de certains, ça peut paraître hyper facile, mais je sais très bien que c'est pas toujours hyper facile et évident. Mais oui, non, dans la vie, en fait, avec mon mari, on se dit que on sait pas ce qui peut arriver. On sait vraiment pas ce qui peut arriver demain. Nous, on préfère se dire, ça va bien se passer. Et même si ça se passe pas bien, mais il y a toujours moyen de retomber sur ses pieds
Et du coup, tu parles aussi beaucoup de la trisomie, donc tu as ouvert ton compte Instagram pour ça.
Notre compte. J'essaie de faire un...
Explique le concept.
Je pense que personne n'est dupe, c'est plutôt moi qui m'occupe du compte. mais c'est vrai que j'essaie d'en faire vraiment un compte familial, en fait. C'est pour ça que je me mets jamais moi en avant, que ce soit en story ou dans les posts. Je dis toujours nos enfants. Enfin, voilà. C'est vrai. J'essaie vraiment d'en faire un compte familial parce qu'en fait, c'est un compte... qu'on a ouvert, alors pas forcément au début, mais là maintenant, depuis quelques mois, c'est vraiment uniquement pour partager sur la trisomie 21 de Christian, son évolution, l'impact que ça peut avoir sur notre famille. Parce que moi, en début de grossesse, j'avais qu'une hantise, c'est que mes enfants se retrouvent sur les réseaux ou que des photos de mes enfants soient envoyées à telle ou telle personne sans que je sois au courant. Enfin bref, c'était moi vraiment, je voulais garder privée ma vie privée. Et en fait, quand on a appris la trisomie 21 de Christian et qu'on a réalisé les réactions que ça suscitait, ou ne serait-ce que la réaction des médecins, en fait, et de tout de suite proposer une interruption de grossesse alors que on demandait qu'on nous communique des noms d'associations ou autres, et en fait, on n'a jamais eu de réponse vis-à-vis de l'hôpital par rapport à ça, en fait. Et en fait, on s'est dit, mais si c'est pas les parents qui défendent, entre guillemets, la vie de leur enfant handicapé, qui va le faire pour eux, quoi.
Ouais, vous voulez dédramatiser aussi sur, ouais. sur
ce handicap. Puis, et oui, et partager et dire, bah voilà, la trisomie 21, on entend ci, on entend ça. Il y a du vrai, mais en fait, c'est beaucoup de... Enfin, c'est pas écrit dans la roche que voilà, votre enfant a une trisomie 21, donc il fera ci, il fera ça. Nous, on nous avait dit, voilà, la moyenne pour l'acquisition de la marche, par exemple, c'est 30 mois. Donc, 2 ans et demi. Il se trouve que l'an dernier, on a rencontré une maman, son petit garçon a marché à... Il marchait à quel âge ? À 18 mois, je crois. Et là, Christian, il a marché un peu après ses 2 ans. Bon, bah voilà. En fait, c'est pas... C'est... Je sais pas si c'est pour se rassurer ou quoi, mais voilà, les gens aiment bien se dire, bon, bah... Il y a trisomie 21, donc ça implique ça, et c'est comme ça, quoi. Et notre vie va être comme ci, comme ça. Mais en fait, nous, ce qu'on essaye de dire, c'est que votre vie, elle va aussi être ce que vous décidez d'en faire, quoi. Et que ce soit avec la trisomie 21 ou sans handicap ou avec un autre handicap, je veux dire, la vie est faite comme ça que, bah, c'est les aléas, quoi. On sait pas, c'est le hasard de la vie, on sait pas ce qui va nous tomber dessus, et voilà, quoi.
Donc du coup, t'en parles sur Instagram.
Ouais, donc voilà, sur...
Un blog aussi, d'ailleurs.
Ouais, on a un site internet où là, on essaye de mettre... bon, ça c'est vrai qu'on n'est pas très assidu, mais ça demande aussi un peu de temps. On a essayé de mettre des articles forcément un peu plus longs, parce que le format Instagram permet pas non plus de s'étaler trop. Voilà. Donc sur notre site internet, on essaye, c'est encore à peaufiner, hein, mais faut qu'on s'y mette vraiment pour essayer de finaliser un peu ça. On essaye de partager des associations, des noms d'associations. On essaye de partager des actions auxquelles on participe ou alors dont on sait qu'elles ont lieu. Et on raconte un peu plus en détail. Par exemple, on a écrit un article sur l'épisode néonatologie, sur le parcours justement de Christian et les rendez-vous médicaux. Donc on avait fait ça, il avait pas encore un an, je crois. Ouais, il avait, ouais. Janvier 2019, on avait fait un premier article sur faire un petit point en fait sur les rendez-vous de Christian. Et puis on a refait la même chose comme il y avait un peu de changement. Et puis même pour partager en fait sur le site, pour avoir une trace sur le site de l'évolution de Christian, où il en est. Et du coup, les rendez-vous évoluent de telle et telle façon. Il y a eu un article. Et après, il y a des articles aussi sur par rapport à la relation avec Gabriel. Bon, forcément, on parle pour Gabriel, hein, mais on compte bien dans quelques années, quand Gabriel sera en mesure de s'exprimer, qu'il le fasse aussi par rapport à ça. Il y a eu un article très apprécié aussi sur écrit donc par le papa sur sa relation de frère et de père d'un enfant porteur de trisomie 21. Et donc, voilà, de donner le sentiment, parce qu'on entend on entend vraiment de tout et de rien, et principalement des choses vraiment négatives par rapport à la relation dans la fratrie ou à l'avenir de l'enfant. Et donc là, voilà, voilà, ça permet de s'étaler un peu plus. Le format article sur le site internet permet de s'étaler un peu plus et de développer un peu plus les points de vue, quoi.
Et alors, tu es enceinte du troisième.
Ouais, de nouveau surprise. Et donc, ouais, c'est un petit garçon qui arrivera à Noël. Et donc, pour cette nouvelle grossesse, comme pour les garçons, on n'a pas fait de test de dépistage. Mmh. On a le gynéco a fait la clarté nucale parce qu'il est obligé, mais bon, comme je lui ai dit, pour ce que ça vaut,
oui,
on s'en fiche un peu. Parce que pour Christian, c'était aussi très bien. Donc bon. Et voilà, on n'a pas fait le... on n'a pas fait la prise de sang parce qu'en fait, c'est pas qu'on cautionne pas, mais on est... enfin, on est personne pour dire qu'on cautionne ou pas, mais je veux dire, cet acharnement, entre guillemets, sur la trisomie 21, de chercher spécifiquement s'il y a un risque, parce qu'en plus, on sait que c'est pas fiable, parce qu'il y a aussi beaucoup de témoignages de parents qui, voilà, tous les tests sont au vert, et puis à la naissance, on découvre la trisomie 21, donc... bref, enfin, cet acharnement vraiment sur la trisomie 21, nous, c'est, ça nous intéresse pas vraiment. Et surtout, en fait, pour le coup, vraiment, au niveau des stats, on jouerait direct au loto si on avait un autre enfant trisomique. Mais ça nous fait pas peur, non. Et évidemment, on va apporter une attention particulière aux échographies. Et de toute façon, en fait, à cause de l'antécédent de cardiopathie de Christian, j'ai un suivi, j'ai deux échographies. J'en ai fait une première et puis il y en a une deuxième de prévue pour surveiller le cœur du bébé. Mmh. Donc avec un cardiologue qui vraiment surveille ça à la loupe. Là, la première échographie a montré que tout va bien. Le bébé va très bien. Il grandit bien. Nous, voilà, tout ce qui nous importe, c'est que le bébé soit en bonne santé. Parce que comme je disais, la trisomie 21, c'est pas une maladie pour nous. La cardiopathie, ça en est une. La maladie intestinale, ça en est une. Mais la trisomie 21, non, c'est une condition génétique qui fait que voilà, tu nais comme ça, comme tu nais blonde ou avec les yeux verts ou voilà, tu nais trisomique. Et du coup, voilà, nous, on va surveiller que bah le bébé arrive en bonne santé. Et même si au cours de la grossesse, on voyait qu'il y avait tel ou tel problème, en fait, c'est voilà, ça permet d'anticiper. Et comme je dis, en fait, le savoir dans toutes ses formes, c'est vraiment une grande chance. Mmh. Et de pouvoir anticiper et prévoir, et voilà, comme on a su pour la cardiopathie de Christian, ça nous a permis de nous préparer et d'être assurés que ça allait bien se passer, quoi. Alors je suis consciente que c'est pas toujours le cas, hein. Ça se passe pas toujours bien, il y a des cardiopathies qui sont plus lourdes que d'autres, il y en a qui sont pas opérables, enfin bon, c'est... voilà, mais il se trouve que nous, dans notre cas, bon bah voilà, ça s'est très bien passé.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité ?
J'ai envie de dire tout. C'est vraiment, bah, surtout, bah, je j'ai pas pu reprendre le travail. Donc, et puis là, bah, ça va pas être prévu pour tout de suite. Donc, en fait, c'est souvent, ouais, pas tout le temps, mais presque, une impression de faire que ça, en fait. C'est vraiment ouais, très 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 prenant. Et alors je saurais pas du tout dire si je m'y attendais ou pas, hein, mais mais voilà, alors oui, effectivement, il y a énormément de joie et de bonheur procuré, enfin rien que le matin de se réveiller avec leur petit babillement ou de les entendre causer entre eux ou nous appeler, c'est, enfin, on se réveille de bonne humeur, quoi, même s'il est 7h et qu'on n'a pas beaucoup dormi. On se dit, bon, bah allez, c'est parti pour une journée où ils vont... enfin, voilà, une nouvelle journée, quoi. On va les voir grandir. On va les voir faire les choses ensemble, se faire des câlins, s'aimer, et puis voilà.
Donc, on va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
Alors, bah, d'être proche de Paris, forcément, par rapport à Christian, c'est une facilité. C'est qu'on a les suivis dans les hôpitaux, on n'a pas à prévoir des longs week-ends ou des longs déplacements pour les suivis de Christian. C'est vrai que bon, ça prend une petite demi-journée, mais voilà, c'est la proximité, en fait, bah ouais, avec ce qui permet à Christian de recevoir ses soins. Après, bon, forcément, avec les deux, de devoir prendre les transports et tout, c'est vraiment super 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 rare, donc ouais, non, c'est principalement la proximité avec les soins pour Christian, parce que Paris même, on en profite pas beaucoup.
Est-ce que t'as un endroit kids friendly où tu aimes bien aller avec les enfants?
Les parcs et les jardins, ils s'amusent, le toboggan, partout où ils peuvent jouer et courir, et surtout découvrir, ouais, Gabriel, il est vraiment très curieux. Et même Christian, en fait, de voir les autres faire, il est beaucoup de... Il est très curieux. Donc ouais, non, les parcs... J'avoue qu'on n'a pas encore trop fait de grosses sorties. Si, une fois, on les a emmenés à l'aquarium. Enfin bon, voilà, tout ce qui est un peu découverte. C'est vrai que forcément, tout ce qui est première fois, bah, la première fois qu'on les emmène à l'aquarium, là, on les a pas encore emmenés au zoo. Donc c'est vrai qu'on se dit, bon, bah, c'est des sorties à faire avec les enfants. C'est vrai qu'on attend... Alors, on n'attend pas forcément impatiemment ce genre de sortie, mais on se dit, bah, c'est des premières fois à faire. Et puis, on a hâte de voir comment ils vont réagir et être émerveillés de tout ça, quoi.
Et quels sont tes projets, rien que pour toi et ce prévu en famille ?
Alors, rien que pour moi, bah, déjà, essayer de jongler au mieux entre tout ce qui va arriver là au dernier trimestre, bah, que ce soit dernier trimestre de grossesse ou dernier trimestre de l'année avec la crèche et tout ça. Bon, essayer de voir un peu comment je vais gérer tout ça. C'est vrai que je pense que ça va être vraiment un petit challenge là. L'arrivée du troisième, je réalise pas trop que ça va faire trois enfants parce que comme je disais, Gabriel et Christian font vraiment tout en même temps, tout le temps. Et puis même si la trisomie entraîne un petit décalage au niveau développement, c'est vraiment pas au niveau de comme si c'était des enfants très rapprochés par exemple, ils font vraiment tout en même temps donc, et puis c'est une deuxième grossesse, donc je réalise pas trop que ça va faire troisième enfant, donc je pense que ça va être le gros challenge, l'arrivée du troisième, et puis bah forcément ouais, je pense à la fin du congé mat, bah penser à enfin essayer de retrouver un travail. C'est vrai que c'était pas forcément une envie qui se faisait beaucoup sentir parce que c'est vrai que j'aime aussi beaucoup bah, être à la maison avec les petits et pouvoir les voir grandir. Mais c'est vrai que là, en début d'année, je me suis surprise à me dire bah ouais, j'aimerais bien retrouver ça. Bon, la grossesse est venue un peu chambouler les plans, mais dans un an, ouais, ça sera un projet d'essayer de retrouver quelque chose de compatible bah, avec Christian, ses soins et puis la vie de famille et puis les trois enfants quoi. Et puis au niveau de la famille, le prochain projet ce sera le déménagement parce que l'appartement va commencer à être un peu petit. On avait un projet de déménagement et puis finalement qui n'a pas abouti pour une petite maison de ville et ouais, ce sera la prochaine étape l'an prochain là, dans un an on espère être parti donc ouais, non, il y a pas mal de choses là qui vont arriver dans les prochains mois on est un peu impatients de voir comment ça va se passer et en même temps je pense qu'on devrait surtout profiter du calme avant la tempête.
Merci beaucoup Elisabeth.
Avec plaisir.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application podcast préférée et sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Elisabeth, retrouvez-nous sur la photo Instagram de l'épisode 63. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.